Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur Art Appliqué, le podcast pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interviewe des experts marketing digital et growth pour parler de la façon dont ils appliquent le framework art et connaître leur méthodologie et process pour l'optimiser. Dans cet épisode, on va parler avec un growth engineer, ce tout nouveau métier qui est apparu en France il y a moins de 2 ans et que l'on voit fleurir de plus en plus au sein des équipes growth des meilleures startups. Un poste clé qui est pourtant encore très méconnu, y compris par des gens qui s'intéressent à la growth.
En fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de données dans les job offers, notamment en fait les outils utilisés par les entreprises. Quand une entreprise poste une annonce de finance manager, souvent elle va mettre un peu les outils, les ERP qui sont utilisés par la boîte en question. Cette donnée-là, c'est de l'or parce que ça nous permet en fait à nos sales derrière de pouvoir justement appeler l'entreprise et dire « Hey, j'ai vu que vous utilisez tel outil, nous on a intégré cet outil, etc. »
Aurélien Aubert est Lead Growth Engineer à Spendesk. Il nous explique dans cet épisode en quoi consiste son travail, comment celui-ci s'intègre dans une équipe growth, et pour comprendre tous les enjeux que cela recouvre, il nous dévoile les coulisses du travail de la Team Growth à Spendesk, une équipe dont la réputation n'est plus à faire sur la place de Paris. On découvre de quelle façon intervient Aurélien et la Team Growth au sein de l'entreprise, et surtout ce qu'ils ont fait concrètement pour avoir un impact sur chacune des étapes du framework art. Instant promo, j'en profite pour vous dire que je développe une chaîne YouTube à mon nom, où je réalise entre autres des études de cas marketing et growth. Allez y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Et bien sûr, abonnez-vous à ma newsletter sur le site yannleonardi.com pour être averti des nouveaux épisodes et recevoir des conseils marketing et ressources en exclusivité. C'est quoi un growth engineer? On en parle tout de suite, c'est parti. Je suis reçu aujourd'hui dans les locaux de Spendesk par Aurélien Aubert. Salut Aurélien.
Salut Yann.
Alors Spendesk, si ça vous dit rien, c'est un SaaS qui propose à des entreprises de gérer et centraliser les dépenses de tous leurs employés. Alors depuis 2016, c'est un peu une des startups françaises les plus en vue. Grosse croissance, grosse levée de fonds, gros bif. cette croissance de Spendesk est soutenue par une team growth dont tu fais partie Aurélien,
ouais,
en qualité de growth engineer.
Exactement.
Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Tous ceux qui s'intéressent à la growth et au growth hacking ont déjà entendu parler de ce terme. Et pourtant, peu de monde sait exactement ce que cela recouvre et comment son travail s'organise au sein d'une team growth. On va donc essayer de découvrir tout ça dans cet épisode. Alors, avant de commencer à parler du métier du growth engineer en lui-même, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ?
Ouais, carrément. À la base, en fait, comment j'ai appris le code ? C'est intéressant de revenir sur mes premières années à l'âge où j'avais 12 ans. C'est un peu à l'âge où j'ai commencé en fait à coder. J'avais un iPod, j'avais un ordinateur, etc. Et j'étais intéressé par tout ça. Je me suis dit, mais comment ça fonctionne derrière ? C'était aussi à l'époque où j'aimais les jeux vidéo. Et c'était un peu l'engouement des réseaux sociaux avec Facebook et Twitter. Et je voulais du coup créer un réseau social autour des jeux vidéo, quoi.
D'accord, tu voulais créer ton réseau, c'est un peu comme tout le monde voulait créer son réseau social.
C'était un peu ça justement quand j'avais 12 ans. Et je commence à apprendre l'informatique et le code grâce au site du zéro, avec le HTML, le CSS. Et je commence à du coup intégrer ma page, etc. Et je me rends compte qu'en fait j'ai besoin aussi d'autres langages comme le PHP pour la partie serveur. J'apprends du coup ce que c'est une base de données, qu'est-ce que c'est un serveur, etc. Et j'ai appris comme ça au fur et à mesure, en me rendant compte qu'il me manquait des choses. Et du coup, ces choses-là, je devais les apprendre au fur et à mesure, quoi. Petite anecdote, c'est qu'à 14 ans, pour Noël, je ne savais pas trop quoi demander. J'avais demandé à mes parents deux bouquins sur le JavaScript et le PHP. Mais mes parents, en fait, ils ne sont pas du tout dans la tech. Et du coup, ils commencent un peu à faire des recherches et tout. Et ils se rendent compte que c'est quelque chose niveau post-bac, etc. Et parce que ça m'intéressait vraiment, en fait, au final. Et c'était quelque chose que j'avais envie d'apprendre par moi-même, etc. Quoi.
Et du coup, tu les as eu à Noël ?
Ouais, j'en ai eu un sur les deux. J'ai pas eu celui sur le PHP, mais j'avais eu celui sur le JavaScript.
Ok.
Et j'ai continué comme ça à apprendre après au collège, au lycée. Et après, j'ai fait du freelance après le bac, à côté de mes études.
Donc, tu étais autodidacte ?
Ouais.
Et tu n'as pas fait de formation académique ?
J'ai fait une formation académique dans le sens où moi, j'ai fait une classe prépa intégrée à Grenoble. Mais c'est pas là vraiment que j'apprenais à coder.
Bah ouais, non.
Et du coup, je le faisais sur mon temps libre, en développant à la base en fait, des sites tout simples, hein, un WordPress, un PrestaShop, des choses comme ça.
Tu as poursuivi après ? Tu as fait école d'ingénieur ou pas ?
En fait, justement, c'est un peu à cause de ça aussi. C'est qu'à la fin de ma classe prépa, en fait, j'aimais pas ça. Toutes les écoles, en fait, c'était un groupe, d'école d'ingénieur dont je faisais partie. Et à la fin, les seules écoles que je pouvais intégrer qui, l'informatique, c'était vraiment de l'informatique industrielle. Et l'informatique industrielle, c'est pas ce qui me plaisait. Moi, c'était surtout le web. Et c'est pour ça que j'ai bougé après sur Paris dans une école beaucoup plus orientée autour du digital, où il y avait de l'informatique, mais aussi il y avait aussi d'autres choses comme le design, du market, etc.
Ok, et donc tu as poursuivi ta formation. En même temps, tu étais déjà freelance.
Ouais.
Ok.
Entre ma classe prépa et le passage à Paris dans une école qui s'appelle Ethic, j'ai passé 3 mois aux États-Unis pour travailler dans une petite boîte à Denver, dans le Colorado. J'avais un pote là-bas, on était sur l'autoroute, et j'étais là en mode « Waouh, tout le monde utilise des pick-up, mais il n'y a qu'une personne qui l'utilise, quoi. Il ne l'utilise pas pour déplacer des choses, et il n'y a qu'une personne à l'intérieur. » Et c'est pour ça qu'on a essayé de lancer une boîte.
Vous avez voulu faire Blablacar aux États-Unis?
Le non, même le Uber des pick-up, tu vois.
Ok, d'accord.
Et le Uber des pick-up, c'est quelque chose qu'on a lancé quand j'étais aux États-Unis et que j'ai continué depuis la France. On avait une équipe, un développeur et un designer qui travaillaient justement avec nous. Après, le problème, c'est qu'on était, il y avait personne tout le monde était en part-time, du coup, c'était assez compliqué. Il y avait personne qui s'est dit, ok, à partir de maintenant, c'est un vrai projet, et on le défonce. Mais on est arrivé à faire à un moment une trentaine de courses par semaine, quoi. On avait en fait 4 drivers avec leur pick-up qui tournaient dans Denver, quoi. Donc, c'était une belle expérience. Et après, en fait, j'ai continué le cursus éthique classiquement, en faisant toujours à côté du freelance.
D'accord, tu avais déjà une bonne connaissance des problématiques un peu business, contrairement à un dev pur qui est un peu éloigné de tout ça, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Que tu te faisais pour toi-même, tu avais lancé un premier... Ouais. Première expérience entrepreneuriale, ok,
voilà.
D'accord.
Et après, j'ai rejoint Jam en stage pendant 4 mois, et après, ça fait 1 an et demi que je suis chez Spendesk.
Très bien. Voilà, à peu près. Donc, tu étais à Jam, tu étais en qualité de dev back-end.
Ouais, j'étais dev back-end là-bas.
Donc, ok, du gros dev bien dur, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est quoi ta définition de growth engineer, du coup?
Ma définition de growth engineer, je dirais notamment, c'est un profil pour moi T-shape. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une expertise en engineering, mais en fait qui comprend tous les enjeux des autres métiers. C'est-à-dire qu'il va comprendre et savoir parler avec un marketeur, il va pouvoir même le challenger. C'est quelqu'un qui va comprendre aussi les enjeux sales, les enjeux customer success, les enjeux web business de façon générale, etc. Et nous, dans la team chez Spendesk, et je pense que c'est hyper important, je pense que comment tu apprends tout ça en étant autodidacte, hyper autonome et avoir une expérience soit en freelance, soit entrepreneuriale auparavant. Quoi. Mmh. Et c'est comme ça que tu apprends un peu à avoir cette vision et cet état d'esprit justement de engineering et growth à la fois.
Donc il faut déjà être sensibilisé, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok. Alors le profil de dev allant vers la growth semble être le profil le plus répandu chez les growth engineers. Mais qu'est-ce que tu penses du chemin inverse des marketeurs qui deviennent growth engineers? Parce que je parlais avec un qui travaille à Matt Koudou, Kevin, et lui, il fait le chemin inverse.
Ouais.
Partir de la growth, aller vers la technique, comment ça te paraît jouable du coup?
Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup plus qui partent de la growth pour la partie engineering, de par ceux que je connais. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui en fait, si on fait cette partie-là, et en fait, qu'on fait par exemple qu'ils sont growth marketeurs de base, et en fait, ils se rendent compte, je suis pénalisé, je sais pas comment tout fonctionne, je sais pas écrire un script, enfin, j'utilise que du Zapier au quotidien, par exemple. Et en fait, ils vont faire une formation comme Le Wagon ou Aeronac, et derrière, en fait, ils vont avoir les bases pour coder, et ça va leur permettre, en fait, de les débloquer sur des petites choses.
Ça va leur permettre de bidouiller un peu.
Ouais, de bidouiller
après, un peu. Est-ce qu'ils peuvent pas être bloqués sur des problématiques de support, de risque, de choses comme ça?
Ouais, clairement. Mais c'est ça, pour ça, je me bats un peu pour ce job de growth engineer. C'est que je suis d'accord avec toi, pour moi, un growth engineer, ça doit être un engineer à la base. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on lui demande, c'est de l'engineering. C'est faire des choses qui soient scalables, qui soient maintenables. Et cette chose-là, en fait, c'est pas en étant juste growth marketer, avoir fait le wagon pendant 3 mois, et derrière, je sais comment les API fonctionnent, etc., que j'ai cette expertise-là, quoi. C'est juste, je vais pouvoir parler avec un dev, mais sinon, je ne l'ai pas, quoi.
Ok. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a aussi le truc qui consiste à avoir des réflexes plus portés vers le « je vais le faire à la main » ou plus portés vers « je vais tout de suite trouver une solution technique parce que je suis technique » quand on va faire des expériences. Genre, ce serait bien qu'on essaye telle expérience en growth. On essaye de faire un truc et là, souvent, les gens qui sont un peu dev vont tout de suite se dire « Alors, comment je vais faire ça techniquement ?» Alors que quelqu'un qui a un profil plus marketeur, il va tout de suite le faire à la main sans se poser de questions. Il peut y avoir aussi cette différence-là.
Ouais, clairement, c'est vrai que c'est quelque chose, même moi, que j'avoue que j'ai des fois au quotidien, c'est on est là, on veut juste tester quelque chose. Et moi, je pense dans ma tête, OK, comment on va le faire pour le scaler, comment on va faire.
T'anticipes déjà
le scale. J'anticipe déjà, genre en mode comment on va faire en sorte que... J'essaye d'avoir en fait la vision long terme en fait.
Ouais, d'accord.
Et c'est vrai que je pense que c'est à la fois bien, comme ça on voit déjà à peu près comment le faire. Mais c'est vrai que des fois, dans la partie, on va dire, brainstorming, etc., bah, ça me bloque un peu. En mode, je pense un peu de façon un peu, dans un bloc. Parce que je ne suis pas vraiment... dire, ah ouais, non, mais ça va être compliqué à faire. Ça va mettre du temps, etc. Quoi.
Je vois.
Mais ouais, très bon point.
OK. Comme tu étais sur un poste 100% technique auparavant, c'est quoi les arguments qui t'ont convaincu à rejoindre Spendesk en tant que Growth Engineer?
En fait, moi, du coup, c'était il y a entre 1 an et demi et 2 ans. J'étais en dernière année à Ethic et du coup, je cherchais un stage de fin d'études dans la fintech et dans une boîte un peu plus grosse. Parce que moi, j'avais travaillé uniquement en freelance ou dans des petites structures comme Jam, qui n'était même pas 15. Et derrière, en fait, moi, je voulais travailler dans une boîte un peu plus grosse, genre une trentaine, quarantaine de personnes minimum. Et le problème que j'avais fait pas mal d'entretiens, c'est qu'en intégrant une équipe tech dans ce genre d'équipe, en fait, il y a déjà une dizaine de tech. C'est un peu, c'est pas vraiment ça, mais genre en gros, tu vas dépiler de l'issue. Ouais. En gros, on va te donner des tasks à faire et derrière, tu réfléchis pas, genre, enfin, pourquoi, etc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la tech, mais aussi, c'est avoir, faire du produit, un peu de market, etc. Et c'est ce que tu as en fait dans les petites boîtes, c'est que de toute façon, tu es obligé un peu de tout faire. Tu es obligé d'avoir peut-être un peu multitâche. Et après, ouais, quand tu es dans une plus grosse boîte, on demande d'être spécialiste, en fait. Et en même temps, j'avais Jérémy, qui était Growth et qui est Head of Growth là, chez Spendesk, qui m'avait contacté sur LinkedIn en me disant « Hey, je cherche à monter mon équipe, je cherche un Growth Engineer. » Alors moi, à l'époque, Growth Engineer, je n'avais jamais entendu parler, je ne savais pas ce que c'était. Je commence à chercher sur LinkedIn ce que c'est un growth engineer. Je trouve personne sur Paris. Je me dis, OK, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de me vendre? Et du coup, moi, je me dis, bon, OK, bah, vas-y, on peut prendre un café. Il me présente son truc, etc. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que toutes les choses que je n'avais pas retrouvées en fait, dans une team tech pure, ben, en fait, là, j'ai retrouvé ce côté un peu... première personne, je vais tout créer en fait, tout créer de moi-même, ça va être, enfin,
c'est ça que j'aime. Les avantages de la petite équipe,
ouais.
Mais dans une structure plus grosse.
C'est ça, et je trouvais ça hyper intéressant, de ce côté autonomie, enfin, en fait, il y a personne pour m'embêter, quoi.
Ok, et toi, maintenant, tu es donc lead,
ouais.
Growth Engineer, et donc tu dois en recruter, du coup.
Ouais.
Tu donnes quoi comme argument? Tu utilises les mêmes arguments? Tu connais la corde sensible?
Ouais, bah c'est un peu ça justement. On cherche un peu ce même genre de profil. Comparé par exemple à une équipe tech comme nous, où on a déjà une vingtaine de personnes, on cherche en fait des gens très spécialisés dans leur domaine. Nous, on cherche des gens qui ont une plus grosse vision, etc. du tech. Pas des mecs, des brutes par exemple en back-end, mais des gens qui sont, qui ont une expertise un peu plus grande. Et en fait, on leur vend l'ownership, l'autonomie. Enfin, qu'ils ont beaucoup moins de contraintes, etc. C'est des nouveaux projets, il faut aller vite. Et ouais, en fait, on cherche souvent des gens qui ont soit une expérience en freelance, souvent, ou une expérience en tant que co-founder dans une boîte qui a raté, mais okay. Ces choses-là, quoi. Vraiment, d'accord. Des gens qui ont appris par eux-mêmes.
Et comment, toi, tu t'es formé à la growth, du coup? Parce que, du coup, il y a dû avoir une période d'adaptation où tu as dû... manger quelques livres, regarder quelques trucs, lire quelques blogs, histoire de...
Ouais, c'est sûr, c'est vrai.
Comment ça s'est passé? On t'a donné des trucs à consulter? Il y avait déjà un petit guide, un truc?
J'ai un peu appris sur le tas. Bah, déjà, en fait, de par ma formation, j'avais pas mal de cours quand même marketing. Du coup, un peu growth quand même. Mais après, on va dire, c'est vraiment sur le tas. Je pense que mon onboarding a bien été fait sur ce côté-là. C'est que... On ne m'a pas donné toutes les choses d'un coup à ingurgiter. On m'a fait ramp-up, et j'ai ramp-up en fait les différentes choses au fur et à mesure en fait.
Ok, et les nouveaux, ça se passe pareil?
C'est un peu la même chose, mais en plus, maintenant, les nouveaux sont un peu plus scopés en termes de job. Quand on va avoir une partie plus sur la partie sales, une partie plus sur la partie marketing, etc.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire du coup, quand est-ce que tu as entendu parler du framework R Ouais. La toute première fois.
Alors, la première fois que j'ai entendu parler de ce framework, c'était à l'école. C'était en cours de marketing.
Donc, c'était à l'éthique.
Ouais, c'est ça. Après, on n'en parle pas tant que ça dans nous, chez Spendesk, dans la Team Growth, de ce framework-là. Même si, au final, on se rend compte que on l'utilise plutôt pas mal.
En fait, c'est pas formalisé tel quel. Vous n'êtes pas là avec un tableau.
On n'a pas un
moi, je m'occupe du R aujourd'hui.
C'est ça.
Ouais. Faites pas ça, quoi.
Ouais, c'est ça.
Je vois. Donc, un growth engineer est donc un membre d'une team growth. Des team growth au complet comme ça, en France, il n'y en a pas tant que ça.
Non.
Du coup, il y a Conto, à ma connaissance.
Ouais.
T'en connais d'autres?
Alors moi, sur Paris, les deux plus grosses, c'est Conto et nous. Il n'y en a vraiment pas d'autres. Il y a beaucoup de... juste une personne dédiée au growth engineering dans des boîtes, enfin surtout des petites boîtes, etc. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, aux US, où c'est beaucoup plus répandu, vas avoir... enfin, même un Head of Growth Engineering avec je ne sais pas combien d'ingénieurs juste pour cette partie-là, etc. Mais je pense que c'est quelque chose... de toute façon, les Growth Engineers, il y a 2 ans, sur Paris, ça n'existait pas. Et je pense que c'est quelque chose qui va, au fur et à mesure, commencer à se développer. Les premiers Growth Engineers datent d'il y a 2 ans. Je sais que Conto a aussi été un des premiers à recruter leur premier Growth Engineer. Et là, on se rend compte que c'est les deux plus grosses. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, je pense qu'on va avoir des team growth engineers dans les prochains mois, prochaines années.
Et du coup, tu parlais des États-Unis.
Ouais.
Est-ce que vous regardez beaucoup ce qui se fait en matière de périmètre growth engineer, ou est-ce que vous essayez de découvrir et établir vos périmètres au fur et à mesure? Vous développez l'équipe?
Je pense les deux. On essaie quand même de bien s'inspirer de ce qu'ils font eux, pas forcément juste growth engineer, mais genre growth en général,
ouais.
Voir un peu les types de profils que justement les grosses équipes growth ont. C'est-à-dire souvent des data analystes aussi dans leur team, etc., pour que ce soit en fait des teams hyper autonomes.
Tu as un exemple de modèle US que vous regardez plus particulièrement?
Moi, je pense qu'il y a le modèle de Figma qui est pas mal en growth, qui a une belle équipe, qui est hyper autonome, justement avec tout ce dont ils ont besoin, que ce soit un data analyst, que ce soit des engs, que ce soit des marketeurs, etc. En fait, quand tu es à ce niveau-là, c'est déjà ce qu'on essaie d'avoir en fonction de nos problématiques, mais c'est juste, tu es complètement autonome, tu es dépendant de personne.
Ok, et vous, la growth team de Spendesk, elle se compose de quoi?
On a deux types de profils pour le moment. On a la partie growth engineer et on a la partie growth marketer. Du coup, ils sont des marketeurs dédiés à l'équipe growth. On est en train de recruter, on va essayer de recruter nos premiers data analysts parce qu'on a énormément de données, etc. Et on dépend à cause de ça énormément de l'équipe de la team data.
Que vous allez embêter.
Donc on va souvent embêter avec nos données, etc. Ils n'ont pas forcément le temps parce qu'ils ont d'autres problématiques et d'autres priorités. Mais c'est vrai que nous, ça nous pénalise parce qu'on ne va pas assez vite sur cette partie-là comme on voudrait le faire.
Ok, et vous êtes combien de growth engineers du coup?
On est 4.
Et c'est quoi le scope de chacun? Alors toi, tu es plutôt transverse, si j'ai bien
compris.
Ouais,
je suis transverse, même si je suis un peu spécialisé. Mais en gros, on est 4 growth engineers. On a Lionel qui est sur la partie front. On va avoir Antoine sur la partie automation. On va avoir Alexandre sur la partie back-end, un peu justement, structuration, etc. Et moi, ce qui va lider ça, et plus sur la partie, un peu architecte, qui va penser en mode, genre, comment nos différents services, ils vont se connecter ensemble, et pour faire en sorte que, on a un truc qui scale, qui soit béton, et qu'on ait 2 sales, ou qu'on ait 30 sales, maintenant, ou qu'on est maintenant en 100 sales, et bien que le truc, il fonctionne, quoi.
Ok, très bien. Donc, on a évoqué un peu la possibilité d'embêter d'autres services. Donc, on va aborder potentiellement un sujet qui peut fâcher. À la base, le poste de Growth Engineer part d'un besoin simple, c'est de pouvoir développer des trucs qui servent à l'équipe Growth sans avoir à aller embêter, justement, que ce soit l'équipe data, l'équipe dev ou autre. Et en particulier, l'équipe dev qui travaille sur le produit.
Ouais.
Or, le produit, c'est justement là que se jouent pas mal de choses de la growth, comme le revenu, potentiellement la rétention. Alors, on en reparlera tout à l'heure de la rétention à Spendesk, mais c'est là que ça peut se jouer à beaucoup de niveaux. Donc, il y a forcément un peu de politique qui rentre en jeu. Quel est le périmètre de la growth team à Spendesk, du coup, par rapport au produit et sur quoi vous avez le droit d'intervenir, sur quoi vous pouvez travailler, sur quoi vous ne pouvez pas travailler, en fait, sans avoir à faire un peu de perte de temps de politique, quoi.
Non, clairement. Je pense que nous, dans la team growth, on a assez de chance. C'est qu'on a un périmètre très large. On peut à peu près travailler sur tout, que ce soit au niveau sur le produit, ou que ce soit enfin, sur nos projets aussi hors produit. Je pense que la seule limite qu'on a, en fait, c'est qu'on ne peut pas toucher à tout ce qui est core banking. Tout ce qui est en fait, genre là où tu as de la partie gestion des paiements, etc. De toute façon, en termes de growth, ça ne sert à rien qu'on touche à cette partie-là. Après, ouais, je pense qu'on est en fait, je pense que ouais, la team produit en fait a confiance en ce qu'on fait. Comme on n'a jamais fait de grosses bêtises, ils nous font confiance et on peut faire à peu près ce qu'on veut.
Donc, du jour au lendemain, si vous voulez aller modifier le design du dashboard, vous pouvez.
Ah, pas à ce point-là, pas sur les parties comme ça, mais sur des features. On peut, par exemple, pour la leverage, etc., pour essayer qu'elle soit plus adoptée, on peut le faire.
Ok, d'accord. Alors, comment vous travaillez concrètement dans la Team Growth? Est-ce que vous utilisez un Growth Hacking Process en cycle, c'est-à-dire partir d'un backlog d'idées, après faire des priorisations, puis lancer les expériences, puis après analyser les retours d'expérience? Est-ce que vous travaillez comme ça?
Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'était pas hyper, hyper bien organisé. C'est pour ça que nous, on a recruté Tiffany il y a quelques semaines, justement, qui va s'occuper toute la partie un peu en tant que product owner pour la Team Growth,
ouais.
Qui va permettre justement de bien structurer les process, arriver à processiser un peu l'équipe. Après, on essaie quand même, justement, jusqu'à maintenant, on essaie quand même bien de structurer nos idées et faire en sorte que, au quotidien, qu'on sache quoi faire, bien sûr, au niveau du quarter, même au niveau de chaque sprint. Quoi.
Alors, du coup, tu parles de sprint d'expérimentation ou de développement?
Les deux.
Donc, vous mélangez les deux, du coup, parce qu'en fait, il y a le growth hacking process,
ouais.
Juste pour rappeler pour les auditeurs, ouais. Du coup, c'est partir d'un backlog d'idées et se dire, bah, tiens, si on essayait de faire ça, ça se trouve, ça va améliorer telle métrique.
Ouais.
Et du coup, vous vous réunissez, je suppose,
ouais.
Et vous décidez de faire ou pas un truc et vous, ouais. Rentrez dans les sprints.
Ouais.
D'accord. Et à la fin d'un sprint, on regarde les datas, on se dit ouais, ça a marché et ça serait bien de le passer à scale et ouais. Donc de faire un truc automatisé.
Ouais, c'est ça.
Vous le rentrez aussi dans un nouveau sprint, du coup, c'est ça?
Ouais, oui, d'accord. Ouais.
Donc, du coup,
ouais.
Vous avez en parallèle, vous avez des sprints dev et des sprints expérimentation?
La partie expérimentation, souvent quelque chose où on n'a pas forcément besoin de la team growth engineering.
Ouais.
Parce que en fait, c'est quelque chose, il y a déjà des outils qui permettent de le faire, plus ou moins, ou c'est quelque chose qu'on
fait. C'est une règle que vous donnez, les expérimentations, on va essayer de ne pas déranger les growth engineers pour ça. Donc,
ouais.
C'est plutôt les growth marketeurs qui font les expérimentations.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Et en fait, ils vont essayer de faire leur truc justement de leur côté. Et après, à partir de là, ok, ben, ça, on a vu que ça fonctionnait, il faut scaler. Là, ça passe à un sujet growth engineering. Après, des fois, il y a aussi des sujets expérimentation qu'on a. Mais ça, c'est beaucoup plus rare.
Le sprint, il dure combien de temps, du coup?
Nous, on fait des sprints de une semaine. Du coup, chaque vendredi, en fait, on définit c'est quoi les objectifs de la semaine prochaine.
Ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, en guise de cas pratique, pour qu'on comprenne bien, d'une expérimentation qui serait arrivée du backlog d'idées,
ouais.
Que tu aurais vu passer, que tu aurais vu valider l'expérimentation, qui serait, ouais. Arrivée après de ton côté, par tes growth engineers?
Ouais, non, carrément. Nous, un des projets qu'on a, c'est un projet actuel en plus, c'est que en fait on s'est rendu compte qu'il y a énormément de données dans les job offers, notamment en fait les outils utilisés par les entreprises. Par exemple, quand une entreprise poste une annonce de finance manager, souvent elle va mettre un peu les outils, les ERP qui sont utilisés par la boîte en question.
Ouais.
Cette donnée-là, c'est de l'or parce que ça nous permet en fait à nos sales derrière de pouvoir justement appeler l'entreprise et dire hey, « j'ai vu que vous utilisez tel outil, nous on est intégré à cet outil, etc. »
D'accord, ça donne des billes, ok.
Ouais. Et ce qu'on a fait au début, c'est que on voulait tester, voir si c'était percutant, est-ce que ça avait un intérêt, et on l'a fait à la main. On a pris des jobs offerts, on a mis justement des freelances dessus, et qui nous ont en fait justement à la main récupéré tous les outils utilisés dans les jobs offerts. Mmh. Et maintenant, comme on voit que ça fonctionne, ben ça, il faut arriver à le scaler. C'est-à-dire que maintenant, c'est un projet engineering et faire en sorte automatiquement d'aller récupérer les outils utilisés par une boîte depuis une offre d'emploi.
Donc du coup, toi, là, tu dois essayer de trouver une solution,
ouais, c'est ça.
Long terme. Et donc, tu dois faire une balance entre le temps de mise en prod,
ouais.
De, que ce soit pas trop long non plus, mais que ce soit suffisamment stable. Et c'est ça tes problématiques, du coup.
Ouais, c'est ça mes problématiques. C'est en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de voir c'est quoi notre vision à long terme. Et après, on découpe pour voir c'est quoi la V0, la feature genre la plus importante. Et on commence à développer cette feature-là. Et après, on développe jusqu'à justement notre vision qu'on avait de base, quoi.
D'accord. Et qui avait eu cette idée de voir les job offers avec les...
Ça, c'était une idée, je crois, que de la team Lead Gen. Et c'était une idée de cette équipe-là avec, avec Jérémy, je crois, notamment, qui est Douglas chez Spendesk.
Du coup, le backlog d'idées,
ouais.
Tout le monde participe?
Ouais, par contre, ça...
Spendesk,
ouais,
tout le monde peut aller mettre son idée?
Pas tout Spendesk, mais toute la team Growth, en fait, on a un backlog d'idées. Et dedans, en fait, bah, chacun remplit quand il veut, quand il a une idée par la tête. Il n'y a pas de mauvaise idée, en fait.
Ouais.
On essaye de dire, bah, si j'ai un truc, bah, dis-le. Au pire, après, on demandera plus de contexte. Peut-être qu'on ne comprendra pas ce que tu veux dire, mais juste dis-le. Comme ça, en fait, il est noté quelque part. Et ça pourrait être un sujet, soit qui est rapide, qu'on va peut-être s'occuper ce quarter-là, ou alors... qu'on va s'en occuper dans 3 mois après, dans le prochain quarter.
Et toi, tu as déjà mis des idées dedans par ouais. rapport à ce que tu avais observé plus dans la partie tech, du coup?
Ouais, non, clairement, ouais. On a des idées tech, que ce soit tech ou que ce soit pure expérimentation aussi.
Tu as un exemple d'idée expérimentation que tu as mis dans le backlog?
Des idées qu'on a eues, par exemple, c'était aspirer en permanence justement LinkedIn, par exemple. Ce qu'on voulait, c'est du coup développer une extension Chrome qui va directement récupérer tous les contacts justement à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va sur la page. Et ça, du coup, on ne savait pas si c'était possible ou pas. Et on a testé une première version de cette extension-là, on s'est rendu compte que bah, c'était possible, techniquement. Et on a du coup bah, créé une extension pour tout le monde. Et bah, tous nos sales, tous les gens dans la Growth Team, pratiquement tout le monde chez Spendesk l'utilise au quotidien.
Donc en gros, là, en fait, c'est parti d'une idée, en fait... qui était déjà validé, qui n'a pas eu besoin de passer par les expérimentations, parce que les gens le faisaient déjà, mais à la main, en fait.
Ouais.
Et du coup, là, vous vous êtes dit, ce serait bien d'avoir un truc qui automatise ce que les gens font déjà, en fait.
Ouais.
D'accord, ok. Alors, pour mieux comprendre tes objectifs à Spendesk et ta façon de travailler, peux-tu nous parler rapidement du business Spendesk, en fait? Ça permettra à tous les auditeurs de bien comprendre. Quel est le produit Spendesk, ou les produits?
Ah bah, je vais commencer par citer le plus gros. Du coup, Spendesk, nous, en fait, on est une plateforme qui permet en fait de simplifier la gestion de paiement en entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que d'un côté, notre but, c'est de donner de l'autonomie aux équipes, faire en sorte que ben, s'ils ont besoin de dépenser quelque chose pour leur travail, etc., ben, qu'ils puissent le faire. Et d'un autre côté, et ben, en fait, donner du contrôle aux équipes financières, c'est avoir une visibilité sur les dépenses qui sont faites dans la boîte, comment elles sont faites et pourquoi.
Ok, ça c'est le produit principal,
ouais, ça, c'est
mais vous en avez d'autres du coup.
Ouais, on a aussi Collect, qui est un outil là qu'on a développé directement, nous en interne, dans l'équipe Growth. Et en fait, on s'est rendu compte chez Spendesk, en fait, on résout un pain. Avec Spendesk, c'est un autre pain, c'est en fait la collecte de facture. Le fait que dès que tu fasses un paiement, il faut que tu récupères la facture et que tu l'uploades sur la plateforme. Et ouais, on s'est rendu compte que même nous en interne, on était des mauvais élèves. On avait la flemme, justement, de, à chaque fois qu'il y avait un nouveau paiement, d'aller uploader son invoice. Et par exemple, qu'on a des outils qu'on utilise comme LinkedIn Ads, et avec, on se retrouve avec 50 invoices par mois. Bah, je t'explique pas le boulot à la fin du mois, quand il faut tous les uploader, ça te prend une après-midi, quoi. Du coup, ce qu'on a décidé, c'était de développer une plateforme qui va se connecter à ta place aux différents suppliers et récupérer les factures pour directement les matcher avec un paiement dans Spendesk. Nous, l'idée, c'était d'avoir un peu un produit extérieur à Spendesk. Parce qu'en gros, c'est pas un outil que tu peux tester en mode « Ah bah tiens, je voudrais tester comment ça fonctionne, comme à Notion où tu as juste à te connecter et tu peux tester l'expérience. » Nous, c'est quelque chose qui doit être fait au niveau C-level. Ça doit être un CFO qui le met en place, etc. Et nous, en fait, on voulait justement avoir un outil qui permette d'avoir en fait cette expérience Spendesk sans être en fait sur le produit. Un peu une approche beaucoup plus bottom-up que top-down.
Ok, donc on en reparlera après parce que ouais. ça sert forcément le côté awareness,
ouais.
Considération du produit Spendesk par la suite, enfin du produit principal. Quoi.
Ouais.
On va donc commencer avec la plus simple des étapes du framework AR, l'acquisition. Je suppose donc que comme tout SaaS B2B, ça correspond à de la génération de leads pour l'équipe sales, c'est ça?
Ouais, effectivement. C'est vrai que c'est un enjeu assez gros, nous, chez Spendesk, faut qu'on puisse arriver en fait à scaler un système facilement, dans le sens où, à une époque, on avait 3 sales. Là, on est une trentaine de sales. D'ici l'année prochaine, on va être une centaine de sales. Et en fait, il faut arriver à avoir un système de lead gen qui soit facilement scalable, et qu'on n'ait pas besoin d'avoir 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes qui s'occupent de cette partie-là, quoi.
Mais c'est quoi votre balance inbound-outbound? Parce que comme vous avez beaucoup de sales, j'étais curieux de savoir ça.
Ouais, en fait, on va faire 80% d'outbound. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller directement contacter à froid un nouveau prospect et 20% d'inbound. Pourquoi uniquement 20% d'inbound et autant que d'outbound? Tout simplement parce que, en fait, on est sur une nouvelle catégorie de marché. Il faut arriver à l'évangéliser. En fait, et les gens, ils ne pensent pas forcément à Spendesk, à une plateforme all-in-one du premier coup, mais en fait, ils vont au début se focaliser sur des petits problèmes qu'ils ont au quotidien. Par exemple, la note de frais, c'est une galère, c'est fastidieux, etc. D'autres problèmes sur les factures, etc. Ils n'ont pas la vision de toute la plateforme, du coup, ils ne pensent pas forcément à Spendesk. Et aussi, ça vient du fait que chez Spendesk, depuis le début, on est beaucoup plus sur cette partie sales plutôt que marketing.
Quand c'est historique, donc.
Ouais, c'est un peu historique, ouais. Et en fait, aussi, l'outbound, c'est un channel beaucoup plus direct. Quand on est sur des nouveaux marchés qu'il faut évangéliser comme ça, c'est beaucoup plus rapide.
Et souvent, l'inbound peut être utilisé sur un marché concurrentiel parce qu'on a besoin d'apparaître plus en amont dans le parcours client. Mais du coup, la partie inbound que vous avez, là, les 20%, à quoi ça correspond, juste par curiosité?
Ça va être des gens qui viennent du blog Spendesk, ça va être, on fait de l'ads ou des choses comme ça.
Donc vous faites quand même du contenu.
Ouais, on fait du content, etc. On commence à en faire, on a une équipe marketing maintenant dédiée à ça, mais on fait encore, on a pas mal d'outbound, notamment sur les nouveaux marchés qu'on ouvre, comme les pays nordiques ou alors les US, quoi.
D'accord, très bien. Alors, j'ai entendu dans le podcast Growthmaker, Jérémy Goyot, qui travaille avec toi donc, disait qu'en gros, vous avez un arbre qui reproduit le paysage des boîtes clientes à Spendesk.
Ouais.
Et vous avez pour chaque type de boîte, donc les pain points, et des stories associées. Vous appelez ça des stories. Donc, c'est des messages types, stories que vous utilisez dès que vous souhaitez apporter donc un argument commercial dans un email ou autre. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne cet arbre techniquement, en fait?
Ouais, alors nous, en fait, ce qu'on a, c'est on a un système de lead scoring sur nos prospects. Et en fait, ce lead scoring, il est basé sur 2 critères. On a ce qu'on appelle le fit score et l'intent score. Le premier, c'est le fit score. C'est justement un système qui va nous permettre, en fait, juste de voir si un prospect, il va matcher avec nos clients ou non.
D'accord.
C'est-à-dire, là, par exemple, on va avoir les technologies qu'il utilise, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est sur une croissance de 30%, etc. Du coup, en fait, ça, c'est vraiment analyser notre base.
Et le type d'entreprise aussi?
Ouais, le type d'entreprise
ça
aussi.
Ça fait partie du fit score aussi?
Ouais, ça fait partie du fit score aussi. En fait, on va analyser toute cette partie-là. Et après, derrière, ça va nous permettre d'avoir juste un score qui va permettre de détailler les prospects. Est-ce qu'ils matchent à notre base customer ou pas?
D'accord.
Et après, on a l'intent score. Là, c'est plus, en fait, sur les employés, typiquement, ou savoir si, bah, par exemple, quand on a envoyé un mail, est-ce qu'il répond ou est-ce qu'il répond pas? Est-ce qu'une personne de l'entreprise est déjà allée sur notre site? Est-ce qu'ils ont une équipe finance qui est vraiment dédiée, justement, dans l'entreprise? Est-ce que... Il y a un mec, par exemple, qui a pu être utilisateur Spendesk dans son ancienne boîte et qui a changé de boîte, qui est enfin, du coup rentré dans cette entreprise et du coup connaît l'expert Spendesk et pourrait être potentiellement...
Ah, les points de contact, en fait. Ouais. Par qui on pourrait rentrer par l'entreprise?
Ouais.
Alors, d'après ce que tu disais, le LinkedIn Score, ça avait l'air vachement lié à la partie un peu CRM. Est-ce qu'ils ont répondu à la première email ou pas?
Ouais.
Donc, c'est géré de votre côté, la grosse team, LinkedIn Score et le Fit Score? Ouais, mais par contre, les actions peuvent être faites côté sales, du coup.
Bah, les actions sont faites côté sales, mais après, le scoring est fait de notre côté.
D'accord, tout est plugé, en fait. Ouais. Ce n'est pas une fois que le lead est passé à l'équipe sales, qu'après, vous ne vous en occupez plus. En fait, il y a constamment...
Il y a cette partie-là qu'on reprend, nous.
Un rappel vers...
C'est ça. Ça peut être typiquement... En fait, ça peut juste quelqu'un qui s'est inscrit sur notre blog.
Ouais.
Et nous, en fait, on voit que les critères de l'entreprise « too much », plus l'intent score est très bon parce qu'on est inscrit à notre blog, plus il y a quelqu'un de l'équipe finance qui regarde régulièrement notre page, etc. Du coup, là, le score il va être très bon. Elle va passer MQL et ce MQL-là va être balancé à un sales qui va essayer de le contacter, d'avoir un premier contact avec lui. Ça peut être un premier call ou enfin un premier email qu'il va envoyer, tu vois, à plusieurs personnes. Et s'il répond, il va rentrer sur des cadences spécifiques. Si le mec a répondu, par exemple, ou a regardé 2 fois l'email sans répondre, il va rentrer dans une cadence spécifique.
Dans un scénario, etc.
Dans un scénario, etc.
Un scénario qui est géré côté sales.
Ouais.
Ok, très bien. Alors du coup, pour générer ces leads, Je suppose qu'il y a des bots qui tournent en permanence.
Ouais.
À quelle fréquence la machine s'enraille du coup?
C'est vrai que c'est un gros problème. Je pense que c'est un problème qu'on a tous quand on fait de la lead gen, et surtout quand on fait de l'outbound, c'est qu'on va vouloir collecter, récupérer énormément d'informations de différentes sources de données, et souvent, ce qui veut dire scrapping, donc récupérer de la donnée sur LinkedIn, Crunchbase, Dealroom, et même d'autres annuaires sur Internet. Et c'est vrai que c'est un sujet compliqué, parce que souvent, on va avoir la page qui va changer, on va avoir des systèmes qui sont mis en place pour bloquer les bots et le scrapping, etc. Nous, l'idée, c'est que nous, on va scraper pas mal, justement, LinkedIn, par exemple. Et en fait, on a eu différentes choses qui nous ont bloqué au fur et à mesure. Et à chaque fois, on a essayé de trouver une solution. Premièrement, on va aller récupérer les informations directement sur la page. On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas parce que la page, même si visuellement, ça c'était toujours la même, derrière, le code, il changeait énormément. Du coup, on a dû trouver une solution parce que changer le code tous les 15 jours, c'est fastidieux, ouais, ça prend du temps.
Ça devient la panique générale et tu dois abandonner tous tes autres projets à chaque fois.
C'est ça. Et là, on a trouvé au fur et à mesure d'autres solutions qui nous ont permis d'avoir à mettre à jour nos scrappers très, très rarement.
D'accord, parce que ça, du coup, c'est des risques à prendre en considération. Enfin, ouais. Moi, par exemple, j'avais un truc à un moment où je scrappais de Le Bon Coin. Et le truc sautait tous les deux jours. Et ça me saoulait. Et à la finale, en fait, c'était tellement chiant à maintenir que ça valait même pas la peine en fait. Et du coup, on a fini par abandonner ce truc-là parce que ça demandait trop de ressources en support à tout le temps essayer de refaire le truc. Donc ça, c'est un gros sujet pour toi, je suppose, l'évaluation des risques.
En gros, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est directement... En fait, on va avoir deux types de sites web, deux types de services. On va avoir dans un premier temps les services où il n'y a pas vraiment grand-chose à faire dans le sens où la page va être générée par le serveur. Ça veut dire qu'en fait, dans ces cas-là, la seule chose dont tu as accès, ça va être ce qui est généré pour le client. Là, il n'y a pas de miracle, ça pète. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un deuxième type de site aussi, c'est des sites où on va dire que tout le serveur va générer tout le front d'un coup. Et après, en fait, va faire des calls API au serveur pour récupérer l'information qu'il faut dans les différentes pages. C'est quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, nous, au lieu de directement récupérer la donnée sur le site en question, ce qui est visible par l'utilisateur, nous, ce qu'on va faire, c'est directement faire les calls sur le serveur comme si on se faisait passer par le front.
Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez identifié une étape d'awareness dans la partie acquisition? Et si oui, comment vous la mesurez?
En fait, Spendesk, c'est une approche pas mal top-down. Du coup, il nous fallait en fait un outil comme Collect qui va nous permettre en fait, d'avoir une approche beaucoup plus bottom-up. Et cette partie-là, en fait, on va utiliser Collect comme un cheval de Troie pour en fait propager Spendesk dans les entreprises sans qu'ils soient réellement utilisateurs Spendesk. Ça, c'est le but justement de...
Donc du coup, ça crée de l'awareness,
c'est ça.
De la considération potentielle. En fait, ça agit un peu comme de l'inbound en fait, finalement.
Ouais.
Est-ce que ton rôle, et d'ailleurs le rôle de toute l'équipe Growth, ne diminue pas à mesure que vous visez des grands comptes?
Effectivement, c'est une très bonne question. Après, nous, on est sur un type d'entreprise entre 50 et 1000 employés. Ça, c'est le type d'entreprise qu'on cible pour le moment. Ce n'est pas des grands, grands comptes. Ce n'est pas des boîtes, par exemple, du CAC 40. Et en final, ces boîtes-là, elles ne nous intéressent pas pour le moment. Parce que souvent, dans des grosses entreprises comme ça, ça a des cycles de décision qui sont hyper longs. Ça peut mettre, faut peut-être entre 1 ou 2 ans pour mettre en place des choses comme ça.
Le sale, il doit l'inviter à dîner.
C'est
long.
Et c'est pour ça, à terme, en fait, on va devoir le faire. Mais pour le moment, on n'est pas sur cette partie, cette typologie de boîte.
Ok, d'accord. Passons à l'étape activation. L'activation pour Spendesk, comme un peu tout le monde, se résume normalement à un bon onboarding. Onboarding qui est donc réalisé par l'équipe Customer Success, c'est bien ça?
Oui.
Ok, est-ce que l'équipe Customer Success a identifié sa métrique d'activation?
Nous, on va dire que ce qu'on appelle le « haha moment », nous, chez Spendesk, c'est le premier paiement fait par un employé sur la plateforme. Ça veut dire qu'entre le moment où le CFO d'une entreprise est prêt à utiliser Spendesk et le moment d'un premier utilisateur qui fait son premier paiement, il y a un peu un chemin entre les deux. C'est pour ça que un des buts de l'équipe Customer Success, ça va être de réduire ce moment d'onboarding pour aller plus vite et pour arriver au AA moment le plus rapidement possible.
Le plus rapidement possible, D'accord, ok. Peux-tu nous dire ce que tu as fait concrètement en tant que Growth Engineer pour améliorer le travail de Customer Success à ce niveau-là?
Ouais, on a plusieurs projets. Le premier, c'est start.spendesk.com. Le but de ce projet-là, ça va être de simplifier l'onboarding de nos clients. Ça met du temps à onboarder toutes les personnes sur l'entreprise. Ça va mettre du temps à leur donner les différents rôles, etc. Et en fait, nous, on a décidé de faire un outil qui va permettre à l'équipe Customer Success, au lieu de leur demander, de leur envoyer par exemple un spreadsheet, alors que leur demandant, listez-moi tous vos employés de votre entreprise et dites-moi quel est le rôle, etc. pour chaque employé, et nous, on leur envoie cet outil start.spendesk.com. Et là, directement, ils vont avoir accès à une interface beaucoup plus visuelle où ils vont pouvoir drag and drop les employés, les différentes features qu'ils veulent mettre, etc. Ça, on l'envoie au Customer Success et le Customer Success, derrière, il va directement pouvoir automatiser l'import dans Spendesk.
Ok, d'accord. Donc, vous vous rendez le truc plus cool, quoi.
Ouais, c'est ça, plus cool à la fois pour le Customer Success, d'un côté, et aussi pour le client.
Ok, ça marche. Étape rétention. J'ai cru comprendre qu'il y avait assez peu de churn à Spendesk. C'est pas vraiment un sujet, du coup.
Ouais.
Pourquoi ?
Comme j'ai dit auparavant, on a une activation qui est hyper longue. C'est-à-dire qu'entre le moment où le CFO est d'accord pour mettre en place l'outil Spendesk dans l'entreprise et le moment où ils l'ont mis en place, pour un certain temps, il faut plusieurs mois. Le bon côté là-dedans, c'est-à-dire que comme on ne vend pas un service mais un process, c'est-à-dire qu'au moment où ils l'ont installé, on leur a vendu un process, une façon de travailler, un peu plus agile, etc. C'est difficile pour eux de churner de Spendesk et de trouver un autre outil parce que ça va prendre du temps. Tous les employés sur le terrain.
L'engagement était trop fort pour le quitter aussi facilement.
C'est ça. Tu vas avoir des cartes Spendesk un peu partout dans l'entreprise. Tu vas voir tous les finance managers qui vont utiliser l'outil. Et du coup, ça va demander énormément de temps justement à la fois stopper l'utilisation de l'outil, mais aussi migrer sur un nouvel outil.
Ok, très bonne technique. Donc après la technique, cacher le bouton unsubscribe.
Ouais, c'est vrai que nous, en 2 ans, par exemple, on a perdu très très peu de clients. Finalement.
Bien sûr. Bon, dans tous les cas, il faut quand même s'assurer du bonheur de vos clients. Est-ce qu'ils sont contents de l'utilisation du produit? Est-ce que c'est aussi l'équipe Customer Success qui s'occupe de ça, je suppose?
Oui, effectivement. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on utilise un système qui va nous permettre en fait, de détecter l'état de nos différents comptes. C'est-à-dire, en fait, on va voir tout bêtement rouge, c'est-à-dire que l'état du compte est très mauvais, jaune, c'est-à-dire moyen, vert. C'est-à-dire qu'il est en très bon état.
Tu parles de l'usage?
C'est l'usage, c'est ça. Et ça veut dire que quand on va avoir un premier compte qui va passer de l'état vert à l'état jaune, là, on se dit qu'il y a un problème. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'elle va être de l'usage? Ça va être la personne, pourquoi je ne reviens pas sur la plateforme? Pourquoi il n'y a pas de spend? Pourquoi elle ne dépense pas sur la plateforme? Pourquoi il y a peut-être uniquement 2 employés alors que l'entreprise, elle fait 500 employés, etc. Et là, en fait, on va essayer de comprendre, on va leur envoyer un mail, on va essayer de les appeler, essayer de comprendre leurs problèmes en final.
Et ça arrive souvent, ça?
De moins en moins, on se rend compte que c'est la plupart des comptes qui, en fait, passent dans le rouge, qui passent dans le jaune, c'est qu'en fait, des comptes qui, en fait, ça ne servait à rien que de les onboarder. En fait, c'est plus un problème qu'on les a ajoutés comme customer, mais en fait, ils n'avaient pas toutes les problématiques.
Ils n'étaient pas dans le product market fit, en fait.
C'est ça.
Ok. Étape revenu. Comment faire en sorte que les clients, une fois acquis, dépensent plus? Donc, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Customer success encore. Alors, comment ça fonctionne?
Ouais. Alors nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on va récupérer, on va collecter énormément de données sur nos prospects, mais aussi sur nos clients. C'est-à-dire qu'on va les récupérer, le nombre d'employés dans une entreprise, on va récupérer la croissance de l'entreprise, on va récupérer plein de données. Et en fait, ces données, on va regarder si elles changent au fur et à mesure en fonction du temps. Et typiquement, une entreprise qui avait par exemple 50 employés il y a 6 mois et qui en a 150 aujourd'hui, mais par contre sur Spendesk, qui a toujours 50 employés, on ne comprend pas pourquoi, tu vois. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre pourquoi essayer de upsell l'entreprise pour faire en sorte qu'elle l'utilise plus, qu'elle l'adopte plus, etc.
Ok, d'accord.
C'est ça, ouais. Du coup, on va pas mal travailler avec le Customer Success sur ces sujets-là et en fait leur balancer toute la donnée dont ils ont besoin dans leur outil qui va être, par exemple, quand une entreprise va faire une levée de fonds ou quand une entreprise a recruté, par exemple, un finance manager en plus dans la boîte ou 3 sales en plus, etc.
C'est fou, du coup, en fait, la grosse team, elle intervient sur tout le parcours client. C'est-à-dire que elle fournit les leads, après elle enrichit l'expérience du sales, après elle enrichit l'expérience customer success.
Ouais.
Vous apparaissez vraiment à toutes les étapes, à chaque fois il y a des allers-retours entre la growth team et le reste.
Bah, en fait, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que au final, nous, le métier, c'est le même. C'est qu'en gros, ça va être de la récupération de données et en fait, arriver justement à automatiser des flots d'automatisation. Mais si on fait le truc un peu générique, c'est la même chose pour les sales que pour les customer success. La seule différence, c'est juste qu'il y en a, c'est sur des prospects et les autres, c'est sur des customers.
Mmh, d'accord. OK. Je sais que le pricing a été un axe aussi pour augmenter le revenu. Alors, est-ce que vous êtes intervenu sur ce sujet à la Team Growth?
Alors effectivement, c'est un bon sujet, le pricing. Le pricing, c'est souvent le défaut numéro un des startups. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont souvent avoir tendance à sous-valoriser le pain qu'ils essayent de résoudre.
Ouais, à se sous-pricer du coup.
Ouais, et de sous-pricer. Et nous, c'est le problème qu'on avait au début, comme toute startup. Ça veut dire que si on regarde entre le moment, il y a 2 ans, et aujourd'hui, on est sur un pricing complètement différent. Et au fur et à mesure, semestre après semestre, on gagne. Nous, en maturité, et on gagne aussi en expertise, etc. Ce qui nous fait qu'on augmente le pricing au fur et à mesure.
Oui.
Aussi, notamment, parce que les sales, eh ben, ils gagnent en confiance en eux.
Et comment vous avez testé les pricing? Vous avez fait à la buffer? On va faire x2 et puis on verra.
Alors
bien.
Nous, on est sur un... Nous, c'est pas vraiment comme ça. C'est pas vraiment un sujet qui est de l'équipe growth. Nous, c'est en fait notre head of sales qui va s'occuper de toute cette partie, justement, gérer, créer des modèles qui vont permettre un peu de prédire... combien d'entreprises vont adopter ce nouveau pricing, etc. Par contre, une des choses sur lesquelles on a vraiment travaillé, c'est plutôt sur la page où on affiche le pricing. On avait une page pricing, typiquement, avec nos différents bundles, etc. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, c'est hyper compliqué. On a décidé, nous, de complètement supprimer cette page et avoir juste, en fait, sur la page pricing, un book démo classique. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un meilleur taux de conversion entre le moment où en fait, on affichait nos pricing et maintenant, parce qu'on avait un book démo aussi.
Avec pricing book démo, ouais. Ça change tout.
Ouais.
D'accord. Étape referral, existe-t-il un programme de referral à Spendesk?
Alors, on en a un qui est malheureusement pas assez leverage pour le moment, dans le sens où on a déjà pas mal de projets, on n'a pas forcément eu le temps de travailler là-dessus. Après, c'est vrai que c'est un sujet que nous, on pourrait prendre lorsqu'on aura un peu moins de charges de travail. Mais c'est vrai qu'il y a des entreprises comme Revolut ou d'autres qui le font hyper bien. Et ouais, à terme, on va le faire, quoi.
D'accord. Revolut, je vais aller voir, ça m'intéresse. Est-ce que vous utilisez les NPS?
Ouais, effectivement, on utilise pas mal le NPS pour tout simplement détecter...
NPS, qui veut dire ?
Net Promoter Score. du coup, on utilise pas mal le NPS pour détecter un peu justement l'engouement des utilisateurs sur le produit.
Ouais, parce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas, ça reste finalement le seul moyen de mesurer si quelqu'un est apte à faire du bouche à oreille ou pas, quoi.
Un peu, ouais, c'est ça. Et en fait, on l'utilise pas mal et on a un NPS assez élevé, on est à 59. Du coup, c'est vraiment pas mal. Mais nous, on n'y touche pas forcément, nous, dans l'équipe growth, à ces trucs-là. C'est plus l'équipe customer success. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voudrait mettre en place, c'est une idée dans le backlog, mais que vraiment, on a envie de leverage, c'est plus savoir, en fait, connaître le degré de satisfaction, en fait, sur les différentes features du produit. C'est-à-dire, quand quelqu'un va utiliser une nouvelle feature dans le produit, en fait, lui demander le ressenti qu'il a sur cette feature-là. Est-ce qu'il a aimé, est-ce qu'il n'a pas aimé, pourquoi, quoi. Mais un truc, du coup, beaucoup plus visible, beaucoup plus sympa qu'en fait une note de 0 à 10 avec, on demande un message, le truc hyper chiant, hyper personnalisé.
Quoi. Donc, ce serait une sorte de NPS light.
Ouais.
Et plus fun, quoi.
C'est ça.
OK, super. Comment est-ce que tu fais pour continuer à te former au jour le jour sur la growth?
Bonne question. C'est vrai qu'on est sur des métiers nouveaux, notamment le growth engineering. Du coup, il n'y a pas forcément de ressources dédiées à ces choses-là. Nous, ce qu'on a, c'est qu'en interne, on a un channel growth où, en fait, tous les membres de l'équipe growth partagent les différents articles qu'ils ont vus, que ce soit sur du Medium, un outil qu'ils ont vu sur Product Hunt, une doc que j'ai vue, par exemple, sur un truc cool sur GitHub ou des choses comme ça. Et en plus, chaque semaine, en fait, on lance ce qu'on appelle la Growth Letter.
Abonné.
Et du coup, dans la Growth Letter, en fait, c'est un condensé.
Le best-of du channel Slack.
C'est ça.
OK, d'accord. C'est quoi la suite potentielle pour un growth engineer? Est-ce qu'il a vocation plutôt à faire carrière dans la partie technique de l'entreprise? Est-ce que c'est plutôt un poste de cadre? Est-ce qu'il va plutôt côté business? Est-ce qu'il doit monter une entreprise? Enfin, comment tu vois la suite pour un growth engineer et puis pour toi?
Ouais. Alors, je pense que la suite pour un growth engineer, chacun a sa propre vision. Moi, je pense que le growth engineer, de par son job, est vraiment fait à terme pour monter sa propre startup.
C'est-à-dire en tant que CTO, du coup.
Ouais, en tant que CTO. C'est-à-dire que comme ça, il va avoir son expertise vraiment à ce qu'on demande quand un ingénieur, c'est-à-dire une expertise en engineering, mais aussi une compréhension mais complète du business, du marketing, etc. C'est-à-dire, en fait, quand tu es CTO, surtout dans une petite entreprise, quand tu es en train de monter dans l'entreprise, tu as besoin d'être un peu cette boîte à outils. Et s'il y a quelqu'un, tu ne vas pas recruter un freelance rapidement, tu vois, genre juste pour t'occuper d'une tâche spécifique, quoi. Si tu peux le faire, même si tu ne le fais pas hyper bien, fais-le, quoi. Et je pense que l'idée, justement, de monter une entreprise et devenir CTO, c'est un des meilleurs jobs, parce qu'en fait, le growth engineer, t'apprends à faire ce job, quoi.
D'accord, t'as la vision transverse. Ouais. Et finalement, la seule compétence qui va te manquer derrière, ça va être juste la partie sales.
Ouais.
Le contact, quoi, finalement.
C'est ça. Au final, c'est plus le contact. Mais après, du coup, tu comprends tous les métiers dans une entreprise. Et tu sais le type de personne, à quel stade tu vas devoir recruter, pourquoi, mettre les différents outils en place. Ça, c'est quelque chose que tu sais faire.
Toi, c'est ton objectif à moyen terme de...
Ouais, effectivement. Moi, j'ai monté...
Tu vas la faire finalement, ce Uber du futur?
Non, je pense que je travaillerai sur un autre projet. Et maintenant, j'aime beaucoup l'univers du SaaS. Du coup, j'imagine que je monterai peut-être un SaaS. Enfin, je sais pas, on verra un peu les
quand
idées.
Quand t'as goûté au business qui n'ont pas de churn,
c'est
tu veux pas les quitter. Quoi.
C'est un peu ça. À terme, je pense vraiment monter mon entreprise. Je me suis donné un peu entre un an et demi et 2 ans pour pouvoir travailler sur un projet un peu comme ça, quoi.
Ok, cool. Y a-t-il des livres, des films, des personnages ou autres qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent?
Alors, moi, il n'y a pas forcément une personne qui m'inspire. Je n'ai pas, un Steve Jobs placardé au-dessus de mon lit, tu vois. Mais j'ai pas mal de personnes, j'aime beaucoup Jeff Bezos, pour la personne, c'est un peu cliché, mais c'est un peu la personne qui est... Enfin, la vision qu'il avait d'Amazon avant les années 2000, dans les années 90, et en fait, c'est celle qu'il arrive à mettre en place aujourd'hui. Et ça, je trouve ça fascinant, en fait.
Donc la persévérance, quoi.
La persévérance, arriver à dire non, mais si, ça va fonctionner, etc. Et il est là aujourd'hui, et c'est vrai que c'est impressionnant d'avoir des personnes comme ça. Actuellement. Après, il y a toujours des personnes qui m'impressionnent, qui m'inspirent au quotidien, que ce soit par exemple des gens que je vais voir en meet-up, ou Nicolas Marché, notre Head of Sales, ou Rod, notre CEO, ou etc. quoi. Et c'est vrai que travailler avec eux au quotidien, ça te motive, quoi.
Ok. Et tu as des bouquins, peut-être des films, des trucs à conseiller?
Je lis assez peu. Je lis quand même un livre en ce moment, mais je lis Work Rules, qui est un livre, en fait... écrit par un ancien employé de Google, qui est intéressant sur la partie comment empower justement ton équipe, faire en sorte qu'elle soit motivée, qu'elle soit impliquée dans les projets, etc. Il donne pas mal aussi de conseils sur comment structurer ton équipe et recruter des personnes du coup plus intelligentes que toi et qui vont te permettre qui vont te permettre de grossir et toi personnellement, quoi.
D'accord, donc c'est un bouquin plus management qui te sert, je suppose, dans la growth team, puisque du coup, tu es le lead sur les growth engineers.
Ouais.
Et on sent derrière les velléités entrepreneuriales qui vont te servir plus tard. Ok, d'accord.
C'est ça. Ouais.
Bon, très bien. Et merci beaucoup, Aurélien, de m'avoir reçu.
Ouais, merci à toi.
Et puis, à très bientôt, alors.
Salut.
Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service 3x1. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog, yannlelardy.com. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite, alors inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. À bientôt, ciao.